Le lierre étouffe les arbres et abîme les murs. Vrai ou faux?
Totalement faux.
Là voilà, le lierre n'étouffe pas les arbres. Ce qui veut dire, Eno Adriaens, que l'on n'enlève pas un lierre qui grimpe quelque part.
Alors en fait, il faut procéder au cas par cas. En réalité, le lierre, c'est pas du tout une plante parasite. Il va utiliser l'arbre que comme support. Et dans la plupart des cas, le lierre va rester vraiment sous la couronne de l'arbre parce qu'il ne va pas pouvoir monter plus haut. Il sera restreint dans sa quête de lumière par la canopée, en fait, par le feuillage de l'arbre. Donc, ils vivent en principe en très très bonne entente.
Et quand on dit que le lierre n'est pas un parasite, une plante parasite, c'est donc pas comme le gui, il ne va pas enfiler des crampons pour pomper la sève.
Exactement, oui. Il va se nourrir vraiment au niveau du sol. Ses racines sont au niveau du sol, donc l'eau, il va la puiser au pied de l'arbre et puis il ne va pas concurrencer l'arbre parce qu'il ne la puise pas au même niveau. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis les crampons, bah, ce sont juste des petites accroches. D'ailleurs, on constate, si on tire une tige de lierre, une branche de lierre, elle se détache extrêmement facilement. C'est que l'adhésion, elle est vraiment que très superficielle.
Mais elle enlève des bouts d'écorce ou du revêtement contre un mur, par exemple, sur une vieille maison.
Alors vraiment, si le crépi de la maison est en mauvais état, ça peut arriver effectivement qu'il y ait un petit peu de crépi qui parte. Hein, mais en général, on a plutôt les crampons de lierre qui vont rester, des petites radicelles qui vont rester accrochées au mur, hein, qui vont se détacher très facilement, en fait.
Ok, alors, l'avantage d'un... Vous dites quand même dans votre ouvrage qu'on laisse les branches, le lierre pousser sur les branches. Les troncs, plus exactement en l'occurrence, verticaux mais pas horizontaux.
Alors ça, c'est uniquement dans le cas d'arbres fruitiers, d'arbres précieux qu'on a au jardin. Évidemment, je ne parle pas du tout du lierre dans la forêt. Donc, effectivement, si le lierre commence à se poser sur les branches horizontales, dans les régions où il y a de la neige, en fait, en hiver, ça crée quand même un certain poids, parce que la neige va se poser, en fait, sur l'arbre, du coup. Et donc, ça peut casser les branches. Et aussi, ça fait une prise au vent qui peut être relativement forte dans le cas de tempêtes, d'orages.
Nicolas, il y a des situations où vous enlevez le lierre.
Oui, bon, moi je dirais que sur un arbre fruitier, si j'ai un cerisier, je ne vais pas laisser grimper le lierre là-dedans.
Mais pourquoi?
Parce que ça empêche déjà la floraison, ça empêche la...
Mais en quoi ça enlève la... ça empêche la floraison?
Ça a des feuilles, hein, ça fait de l'ombre.
Ah, si ça va sur les fruits, vous voulez dire?
Non, si ça envahit l'arbre. Et j'ai aussi constaté, par exemple, sur des arbres affaiblis, ça les affecte plus qu'un arbre qui est en bonne santé, ça c'est clair. J'ai remarqué sur des chênes pubescents, chez nous on a beaucoup de chênes pubescents sur la rive droite du Rhône, et ces chênes arrivent à un certain... Puis c'est des plantes qui poussent très lentement, puis le lierre pousse plus vite. Donc, ça empêche certains rameaux, certains bourgeons d'éclore parce qu'ils sont cachés dans le lierre. Donc ça, c'est sur certaines espèces, ça fait une certaine concurrence. Et là, moi, j'ai constaté sur le chêne pubescent. Donc, j'en ai autour de mon rucher, de ces chênes pubescents. Il y a un peu de lierre dessus et je coupe la moitié.
Vous faites la moitié.
Parce qu'il y a souvent, il y a 3-4 plantes qui partent depuis le fond. Je coupe au fond la moitié.
Comme vous ça, allégez, oui.
Allégez un peu, oui. Voilà.
Et pourquoi vous en gardez quand même?
Oui, je garde parce que pour les abeilles, c'est bon.
Et donc, qu'est-ce que vous répondez?
Alors, effectivement, en fait, le lierre, il va accompagner la sénescence de l'arbre. Donc, les arbres qui sont vieux, qui sont plus fragiles, dès le moment où ils ont un peu moins de feuilles, quand il y a des branches mortes, bah, le lierre, il va profiter pour monter plus haut. Donc, il va finalement accompagner sa vieillesse et prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de la vieillesse de l'arbre. Et finalement, il va lui octroyer une seconde vie. Parce qu'en fait, le lierre, c'est effectivement plein de vie. On a en automne plein d'abeilles qui bruissent. C'est une source de nectar incroyable. Hein. Un lierre qu'on a laissé vieillir, en fait, il va donner beaucoup de fruits, beaucoup de fleurs plutôt d'abord, pour commencer en automne, dont vont pouvoir profiter toute une kyrielle de pollinisateurs, dont les abeilles domestiques, les abeilles sauvages, aussi les papillons migrateurs, ils s'arrêtent souvent sur le lierre. Et puis au printemps, après, quand les fruits sont à maturité, on a les petites baies noires là, c'est une source de nourriture très prisée par aussi par les oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs quand ils reviennent. On a les fauvettes à tête noire. Au retour de migration, c'est les premiers fruits qu'ils trouvent à disposition dans un jardin ou dans la forêt.
Oui, tout à fait. J'ai remarqué ça. C'est au printemps, le lierre est très vivant. Il y a beaucoup d'oiseaux là-dedans.
Ça, c'est vrai.
Donc, ils sont aussi après les fruits. Hein.
Et puis c'est aussi des cachettes pour faire leur nid. Le merle, il peut faire son nid très tôt dans le lierre parce que il est protégé des intempéries. Là, c'est royal. Hein, et...
justement, à propos de protection, dans les articles qui expliquent, dans votre livre, vous donnez les fake news, mais après, vous évidemment, vous développez le sujet, disant le lierre protège des écarts de température.
Ouais,
alors, les oiseaux qui y nichent, certes, mais...
Du coup, l'arbre, le tronc, il est beaucoup moins exposé aux gros écarts de température que ce qu'il s'agisse du froid ou qu'il s'agisse de l'insolation en été. Ça fait un ombrage bienvenu. Puis ça, c'est valable aussi pour les murs. Donc, c'est une protection qui est bénéfique finalement. Contrairement à ce qu'on croit, ça peut être bénéfique pour les revêtements parce que ça les protège justement de ces violents écarts de température qu'on a beaucoup actuellement, notamment à cause du réchauffement climatique.
Et qu'on aura de plus en plus. Est-ce que vraiment on peut imaginer qu'un lierre prenne racine dans le mur ou dans la plante?
Alors en fait, il peut prendre racine dans le mur. Si on a décidé de couper un lierre au bas du mur parce qu'on a peur qu'effectivement il abîme un revêtement, en fait, il peut réagir si on laisse justement des tiges grimper sur le mur, si on n'a pas tout arraché, et bien en réaction, comme il a envie de vivre, il peut transformer ses crampons en radicelles. Et donc s'ancrer plus violemment dans le mur. Mais en fait, il réussira à le faire que si le mur est abîmé, s'il y a des interstices.
Dans un vieux mur, ce sera effectivement dans le mur.
Il y a des fissures dedans.
Ouais. Et puis il y a peut-être aussi un petit bémol par rapport au mur en pierre sèche. C'est clair que si il rentre à l'intérieur d'un mur en pierre sèche, là il y a beaucoup d'ouvertures et puis il pourra éventuellement le traverser s'il trouve l'autre côté. Puis effectivement il peut grossir, pousser et puis éventuellement un peu déstabiliser des pierres. Mais en général les murs sont bien faits. S'ils sont bien faits, ça peut fonctionner pendant des années en cohabitation.
Vous n'êtes pas convaincu, Nicolas ?
Si, je suis convaincu, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Vous avez des fruitiers sur lesquels vous enlevez le lierre, comme le fait Nicolas ?
Alors, j'ai effectivement quelques vieux pommiers, tout vieux pommiers, dont les branches sont très horizontales. Et donc, ils ont été taillés de telle sorte que ce soit très horizontal. Et puis là, j'enlève le lierre qui, quand il commence à devenir trop volumineux sur ces branches-là, parce que j'ai peur que ça les casse. Et puis on voit.
Pour vous, c'est le casse, la casse.
Ouais. Voilà, c'est vraiment la casse qui me fait souci. Donc, je le laisse aller sur les branches qui sont verticales et puis sur le tronc. Mais par contre, sur les branches horizontales, j'interviens.
Nicolas. Oui, et puis c'est aussi une protection pour les prédateurs, pour certains prédateurs qui vont habiter là dans ce lierre. Sur les arbres fruitiers, avant on avait des arbres fruitiers sur haute tige, et là je laisserai aussi le lierre, c'est sûr. Mais les arbres fruitiers qui ont une basse tige, c'est un peu différent.
Oui, d'accord, ouais, je vois la différence. Est-ce que c'est vrai ou pas que le lierre est un filtre à particules ?
Alors en ville, on a constaté qu'il y a beaucoup de poussière qui s'accumule, donc de poussière de toutes sortes, donc qui peuvent contenir effectivement des polluants, qui vont s'accumuler sur les feuilles de lierre, parce qu'il y a des milliers de feuilles de lierre sur un lierre, donc, oui. Donc ça concentre un petit peu les particules, effectivement.
Ça prend moins de place qu'un arbre de planter du lierre. Bon, il faut voir le support.
Oui, surtout en ville. C'est vrai que souvent les architectes n'aiment pas trop qu'on mette des plantes grimpantes sur les façades parce que ça dénature un petit peu leur ouvrage. Mais j'ai rencontré tout récemment une architecte qui était convaincue aussi de l'intérêt du lierre et qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci avec le lierre. C'était un peu un mythe.
Nous, on a mis sur les réseaux sociaux, le lierre ne s'attaque pas au mur, et il y a effectivement des réactions dedans. C'est faux, ça s'attaque. Il y a beaucoup de haine pour ce pauvre lierre. Oui, Nicolas.
Ah, tout à fait. Mais il faut aussi dire que le lierre, c'est un puits pour le carbone. Donc, il a des feuilles toute l'année. Elles sont actives toute l'année pour prendre le gaz carbonique dans l'air. Ça, il faut
le souligner, ouais, oui, c'est juste.
Tout à fait. Toutes les plantes qui ont un feuillage persistant sont encore plus effectives que ceux qui ont le feuillage que pendant la bonne saison.
Oui, j'ai envie de rebondir là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le lierre, en fait, il renouvelle ses feuilles tous les 3 ans au printemps. Et donc, il y a des chercheurs qui ont comparé les croissances d'un chêne, de plusieurs chênes, en fait, en forêt. Et ils ont pu constater que le lierre les chênes qui étaient couverts de lierre avaient une croissance annuelle qui était plus importante que les chênes qui en étaient dépourvus. Et puis ils expliquent ça par le fait que le fait de perdre ses feuilles au printemps régulièrement, donc
il y
a un renouvellement, il les perd pas tout en même temps, ça fournit un engrais. Les feuilles qui tombent vont se composter et vont fournir un fertilisant qui est important pour la plante au printemps, en fait.
La feuille n'a pas de tanin, c'est juste?
Oui, exactement.
Le lierre n'est pas une plante à tanin.
Donc
ça fait un compost assez particulier.
Ben, en fait, elles vont se décomposer extrêmement vite. Donc elles seront utilisables très rapidement par les plantes.
Et ça fait de la bonne lessive.
Et ça fait de la lessive. J'ai testé.
Vous l'avez testé?
Oui, bien sûr.
J'ai pas testé.
Oui, j'ai testé.
Racontez alors.
Donc, en fait, on met 50 feuilles de lierre par litre d'eau. Parce qu'en fait, les lierres contiennent à peu près 15% de sapodine. Donc, on fait une décoction de feuilles de lierre.
Alors, 50 feuilles de lierre
par litre d'eau.
Un litre d'eau, ouais.
Voilà. Et puis, on fait bouillir pendant 10 minutes. Puis après, on laisse reposer pendant une journée, et on peut utiliser, on filtre évidemment. Et alors on peut broyer un petit peu le lierre, hein, pour que on le coupe en petits morceaux pour que ça, la saponine sorte plus facilement.
Mm-hmm.
Au moment de l'ébullition. Et puis on filtre et on utilise comme une lessive. Alors on peut rajouter éventuellement des huiles essentielles, mais quoique j'utilise de moins, enfin voilà, j'essaye de plus utiliser non plus d'huile essentielle dans les produits cosmétiques, parce que l'origine des fois c'est énormément d'énergie de produire ces huiles essentielles, enfin ça demande une masse énorme de plantes. Donc voilà, je préfère garder les huiles essentielles plutôt pour les usages phytothérapiques ou pour la santé.
50 feuilles de lierre broyées dans 1 litre d'eau, bouillir 10 minutes, laisser reposer une journée, filtrer et vous avez du savon. Que vous utilisez pour la lessive, pour les mains, pour les cheveux, pour la douche, pour tout ?
Non, j'utilise surtout pour la lessive.
D'accord. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans les traitements, vous qui êtes un grand fanat, Nicolas, des traitements au petit lait, c'est un puits de science
oui,
sur
je
ce
pense,
plan-là.
Mais on a le savon noir qui.
Oui, alors voilà, un remplacement du savon noir. Mais bon, le savon noir est aussi naturel, vous me direz.
Oui, c'est aussi naturel. Bon, des fois c'est d'origine animale, quoi, mais.
Ouais, et puis je crois que le savon noir mousse mieux, alors ça donne plus une impression de propreté quand on utilise du savon que quand on utilise une décoction de lierre.
Bon, je pense que la décoction de lierre, ça va certainement aller aussi contre les pucerons, mais il faut rajouter, à ce moment-là, il faudrait rajouter soit de la tanaisie, soit un autre extrait de plante pour avoir un effet sur les pucerons.
La tanaisie, qu'est-ce que ça apporte sur les pucerons?
La tanaisie, c'est pas un insecticide à proprement parler, mais c'est un répulsif.
Un répulsif?
Oui. Puis ça.
Oh, d'accord.
Donc les pucerons n'aiment pas trop.
On va terminer par un ping-pong. Le lierre, je veux pas sur ma façade. Oui, non, non. Vous allez en mettre. Vous, quel est l'argument sur votre façade?
Alors j'en ai sur ma façade. Elle en est couverte.
Donc vous avez une maison couverte de lierre.
Ouais, le devant de la maison est vraiment couvert de lierre, oui.
Ok.
Alors, ouais.
Allez-y.
Non, j'en ai juste qui grimpent aussi parfois sur les volets. Et puis c'est vrai, quand on l'arrache sur les volets, on voit les petits crampons qui sont encore présents. Et puis au niveau esthétique, c'est un peu plus gênant. Mais par contre, sur le reste de la façade, je trouve que c'est merveilleux, quoi.
Et c'est une raison esthétique qui a fait que vous aviez laissé le lierre sur la façade?
Non, il a toujours été là. Et puis, quand on a acheté la maison il y a 25 ans, il y était déjà, donc on l'a laissé.
Nicolas, vous enlevez sur votre façade ?
Non, moi j'ai planté sur le mur de soutènement de la maison, j'ai planté du lierre, et puis j'en ai planté deux, trois, puis maintenant le mur est couvert de lierre, et puis ça habille bien ces vilains murs de soutènement, vous savez, en éléments préfabriqués, et là, il fait son effet, quoi.
Mm-hmm. Bon, et il ne détruit pas le mur ?
Non, ça ne détruit rien du tout, ça s'accroche très bien. Là. Et puis, il n'y a pas besoin de soins. Pour se dire. Il n'y a pas besoin d'aller mettre l'engrais. C'est formidable. Ça se nourrit même. Et puis bon, il faut lui amener de l'eau quand il n'y a pas assez. Mais...
D'ailleurs, j'ai un rosier aussi au pied de la façade. Et puis, à mon avis, il doit être nourri, notamment par les feuilles de lierre qui tombent, parce que je ne lui mets jamais d'engrais. Et ce rosier est absolument magnifique sur la façade.